En observant de près la riziculture irriguée de Madagascar, il est arrivé à deux conclusions. D'une part, qu'il y avait excès d'eau sur les rivières inondées qui asphyxiaient à la fois le sol et le jeune plant au repiquage. Et deuxièmement, qu'en faisant un repiquage précoce, il avait de meilleurs résultats.
Ce système comporte des avantages en termes de coûts, mais aussi il permet une économie en eau et c'est également un système biologique, entre guillemets.
Exactement. Et une économie en semences, et avec du fumier et non pas des produits chimiques d'engrais ou de pesticides, car la réduction de l'eau diminue les risques d'invasion d'insectes, etc. Donc il y a beaucoup d'économies d'eau et de semences.
Donc c'est un système très avantageux. Pour quelles raisons est-il contesté par un grand nombre de chercheurs?
Eh bien parce que sur le plan traditionnel, culturel, malgache, c'était aller à l'encontre des traditions ancestrales. Et dans le milieu technique contemporain, ce n'était pas appliqué. Les recherches les plus en pointe, des grands laboratoires internationaux financés par le gros business international qui a des ambitions commerciales bien connues, y compris le grand centre de recherche sur le riz IRI des Philippines, qui n'a jamais abouti à des résultats aussi économiques. Mais maintenant, il faut dire que tout un réseau international s'est constitué depuis la mort du père de Loulanier. Plus de 20 pays sont en train de l'appliquer, depuis la Chine et l'Inde, les Philippines, le Cambodge, etc., jusqu'à Cuba.
Ce type d'initiative, finalement, est peu relayé.
Exactement. Et je pense que moi qui connais assez bien la schizophrénie des institutions internationales, c'est-à-dire leurs contradictions, qui savent qu'il existe différents moyens, mais que, d'une part, quand ils n'en ont pas l'initiative de ces innovations ou le contrôle, ils ont beaucoup de peine à les prendre en considération parce que ça va à l'encontre des mentalités, de l'aide internationale et d'un manque de bon sens, on pourrait dire, et d'attention à la recherche plus modeste, mais très efficace. C'est difficile de faire passer les informations dans le monde quand on n'a pas les grands moyens de diffusion.
La société civile se fait de plus en plus entendre, en tout cas elle tente de se faire entendre. Est-ce
bien
que
sûr.
Le changement peut venir de cette société civile?
Bien sûr, et je vous assure que notre réseau international y contribue puissamment avec des moyens limités, mais à travers Internet, maintenant, nous avons des possibilités de le faire connaître. Et je vous dis, ça est en train de progresser sérieusement dans le monde.
Vous avez travaillé pendant de nombreuses années avec un organisme comme la FAO. Quelles sont ses limites? Est-ce qu'il y aurait une nouvelle formule à inventer pour que des chefs d'État puissent se rencontrer et discuter de thèmes aussi importants que la crise alimentaire mondiale?
Ben, je dirais qu'il ne faudrait peut-être pas commencer par les chefs d'État, mais par dans leur population de chaque pays, les pays qui ont le plus besoin, qui choisissent comme conseillers des gens de terrain qui sont proches, comme l'était ce père de Loulanier, de l'expérience et de la collaboration avec les paysans, avec leur sagesse traditionnelle. Ça a été tout mon travail, puisque j'ai fait de longues enquêtes dans tous les pays sahéliens, notamment sur les méthodes traditionnelles de conservation des céréales, et donc d'être à l'écoute des populations pour pouvoir faire remonter cette information, qu'elle parte d'une prise de conscience et de la base plus proche des réalités concrètes.
En tant que technicien agronome, quelle est votre expertise concernant les biocarburants? Selon le Saint-Siège, cette production menace le droit à l'alimentation.
Elle est concurrentielle de plus en plus, on en prend conscience récemment. On s'est lancé dans ces productions-là en Europe, mais plus encore en Amérique latine, notamment en Argentine et au Brésil, avec le soja et d'autres productions. Et c'est au détriment, d'une part, de la planète, c'est-à-dire des surfaces boisées telles que la grande forêt amazonienne, mais celle du nord de l'Argentine, et d'autre part, des surfaces destinées à la production vivrière. On retrouve ce qui était tabou, c'est-à-dire la paysannerie avec la production vivrière, la production familiale, c'est-à-dire la vocation du paysannat à nourrir la planète.
Vous avez le sentiment que de nombreux États aujourd'hui confrontés à une profonde crise alimentaire sont maintenant conscients que l'agriculture familiale doit être soutenue, doit être encouragée.
Bien, je pense que la prise de conscience est récente, mais il est grand temps que ça passe dans la pratique.
Qu'attendez-vous d'une rencontre comme celle qui a lieu en ce moment à Rome, de cette conférence de la FAO sur la souveraineté alimentaire ?
Vous savez, j'en ai vu beaucoup trop pour être optimiste. Je vous dis et je répète qu'il ne faut pas commencer par les chefs d'État, mais il faut vraiment mettre ensemble des gens à la fois compétents et réalistes, comme l'était ce père de Lolagnier, et qui sont capables de faire des propositions et de se faire entendre des chefs d'État pour qu'ils changent d'orientation.
En même temps, ce sont ces chefs d'État qui financent les projets.
Qui financent, c'est plus les organismes financeurs internationaux. Là, c'est encore un tout autre problème, comment transitent les financements et comment ils sont bien employés ou pas.
À ce propos, justement, le président sénégalais a véritablement pointé du doigt le mois dernier l'AFAO en mettant en évidence son inefficacité. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
C'était un pavé dans la mare, une critique qui avait l'avantage d'ouvrir une brèche et d'obliger à regarder en face les choses. Alors, remettre en cause l'organisme, c'est une chose, mais il faut savoir ce que l'on va mettre en place, mais avec des gens qui ont une longue expérience. J'en ai connu beaucoup dans mon métier. Il y en a au sein de la FAO, mais ils sont brimés par l'institution.
Quelles sont les clés, selon vous, pour justement commencer cette réforme ?
C'est d'ordre des mentalités, et après, pour que ça passe dans les institutions. Ce grand sociologue américain, Norman Hupoff, est allé maintes fois à la FAO pour se faire entendre, et il a l'impression de prêcher dans le désert. Vous savez, le père de Lolagnier, Madagascar, avait préparé tout un dossier qu'il proposait au gouvernement pour le retour à l'autosuffisance alimentaire en quelques années, alors que le pays était déficitaire largement. Madagascar pouvait devenir un grenier qui pouvait exporter du grain. Quand on a des gens comme ça, il faut se dire, mais écoutons-les.